17. Sa première idée avait été de remettre les carnets dans la malle enterrée. Mais Pete l'avait écarté presque aussitôt. Si les flics venaient, avec le mandat de perquisition dont l'avait menacé Hallyday, où irait-il chercher après avoir fait chou blanc dans la maison? Il leur suffisait de regarder par la fenêtre de la cuisine et d'apercevoir toute cette friche au-delà du jardin de derrière. L'endroit idéal. S'il décidait de suivre le sentier, il verrait un carré de terre fraîchement retourné près du ruisseau, et ça serait game over pour lui. Non, c'est mieux de faire comme ça. Mais plus angoissant aussi. Il tire le vieux chariot de Tina le long du trottoir et tourne à gauche dans Elm. John Ty, qui habite à l'angle de Sycamore et de Elm, est dehors en train de tondre sa pelouse. Son fils Bill s'amuse à lancer un frisbee à leur chien. Le frisbee vole par-dessus la tête du chien et atterrit dans le chariot, où il vient se nicher entre les deux cartons.
« Renvoie-le !»
s'écrie Billy Ty en traversant la pelouse au galop. Ses mèches de cheveux bruns rebondissent sur son crâne.
« Renvoie-le fort !»
Pete renvoie le frisbee, mais lorsque Billy veut le lui renvoyer, Pete lui fait non de la main. Quelqu'un le klaxonne au moment où il tourne dans Birch et il manque s'évanouir de frayeur. Mais c'est seulement Andrea Kellogg, la dame qui vient coiffer Linda Saubers une fois par mois. Pete la salue d'un signe du pouce et d'un sourire qu'il espère éblouissant. « Au moins, elle n'a pas envie de jouer au frisbee », pense-t-il. Et voilà le centre aéré. Une boîte en briques de deux étages avec une pancarte sur le devant qui dit « À vendre » et « Appelez Thomas Saubers immobilier » avec le numéro de portable de son père. Les fenêtres du rez-de-chaussée ont été condamnés avec du contreplaqué pour empêcher les gosses de casser les vitres. Mais à part ça, le bâtiment a l'air encore pas mal. Deux ou trois tags ornent les briques, c'est sûr, mais déjà du temps où il était couvert, le centre aéré était un super spot pour les taggeurs. La pelouse de devant a été tondue. « Ça, c'est papa », pense Pete, non sans fierté. Il a dû payer un gamin du quartier pour le faire. Je l'aurais fait gratis s'il me l'avait demandé. Il gare le chariot au bas des marches, monte les cartons l'un après l'autre, et il est en train de sortir les clés de sa poche quand une Datsun cabossée se range le long du trottoir. C'est M. Evans, son entraîneur de petite ligue quand on jouait encore au baseball dans cette partie de la ville. Pete a joué avec lui lorsque M. Evans entraînait les zèbres de Zoneys Gomart.
Hé, receveur!
M. Evans s'est penché pour baisser la vitre côté passager. Merde, pense Pete. Merde, merde, merde.
Salut, coach Evans.
Qu'est-ce que tu fais? Il rouvre le centre ou quoi?
Non, je crois pas.
Pete a préparé une histoire pour une éventualité de ce genre, mais il espérait ne pas avoir à la raconter.
Il y a un genre de truc politique la semaine prochaine. La Ligue des femmes électrices ou un truc comme ça. Peut-être un débat, je sais pas trop.
Au moins, c'est plausible. Parce que cette année est une année électorale, avec des primaires dans 15 jours et des problèmes municipaux à n'en plus finir.
Largement matière à débat, c'est sûr.
M. Evans, corpulent, sympa, jamais très grand stratège sur le terrain, mais super pour l'esprit d'équipe, et toujours content de distribuer des sodas après les matchs et les entraînements, porte aujourd'hui sa vieille casquette des zèbres de Zoneys, maintenant toute délavée et avec des auréoles de sueur.
T'as besoin d'un coup de main ?
Oh non, par pitié.
Non, non, ça va.
Hey, ça me dérange pas.
L'ancien entraîneur de Pete coupe le contact de sa Datsun et commence à déplacer son poids sur le siège, s'apprêtant à descendre.
Vraiment, coach, ça va. Si vous m'aidez, j'aurai fini trop tôt et faudra que je retourne en classe.
Monsieur Evans rigole et se recale derrière le volant.
Pigé.
Il redémarre. Et sa Datsun largue un pet de fumée bleue.
« Mais pense à bien refermer à clé derrière toi, ok ?»«
Bien sûr !»
dit Pete. Les clés du centre glissent entre ses doigts mouillés de sueur, et il se penche pour les ramasser. Quand il se redresse, la voiture de M. Evans est en train de s'éloigner.
« Ouf, merci mon Dieu !»« Et s'il vous plaît, faites qu'il n'appelle pas mon père pour le féliciter de l'esprit civique de son fils. »
La première clé que Pete essaie ne rentre pas dans la serrure. La deuxième rentre, mais ne veut pas tourner. Il la secoue un peu dans un sens, puis dans l'autre, pendant que la sueur ruisselle sur son visage et lui dégouline brûlante dans l'œil gauche. Pas de bol. Il est en train de se dire qu'il va peut-être devoir réenterrer la malle après tout. Autrement dit, retourner au garage prendre des outils. Quand la grosse vieille serrure se décide à coopérer. Il pousse la porte, transporte les cartons à l'intérieur, puis retourne chercher le chariot. Il n'a pas envie que quelqu'un se demande ce que fait ce truc au pied des marches. Les grandes salles du centre ont été presque entièrement débarrassées, ce qui fait paraître le bâtiment encore plus vaste. Il fait chaud à l'intérieur sans clim, et l'air sent la poussière et le renfermé. Avec les fenêtres condamnées, il fait sombre aussi. Les pas de Pete résonnent, tandis qu'il trimballe les cartons à travers l'immense pièce centrale où les jeunes jouaient à des jeux de société et regardaient la télé, et les emportent dans la cuisine. La porte de l'escalier qui descend au sous-sol est verrouillée elle aussi. Mais la première clé qu'il a essayée à la porte d'entrée est la bonne. Et au moins, il y a toujours l'électricité. Heureusement, car il n'a même pas pensé à emporter une lampe de poche. Il descend le premier carton et découvre un spectacle réjouissant. Le sous-sol est rempli de bazar. Des dizaines de tables de jeu sont empilées contre mur. Une bonne centaine de chaises pliantes sont alignées en rang les unes contre les autres. Il y a des vieux composants de chaînes stéréo et des consoles de jeux vidéo démodées. Et, encore mieux que tout, des tas de cartons à peu près comme les siens. Il glisse un œil dans quelques-uns et entrevoit de vieux trophées sportifs, des photos encadrées d'équipes locales des années 80 et 90, un gant de receveur usé jusqu'à la corde, un fouillis de briques de Lego. Ça alors, il y en a même qui sont marqués « cuisine ». Pete pousse les siens contre ceux-là, où ils ont l'air parfaitement à leur place. « C'est le mieux que je puisse faire », pense-t-il. « Et si j'arrive à sortir d'ici sans que quelqu'un vienne me demander ce que je fous là, je m'en tirerai à bon compte. » Il referme la porte du sous-sol et retourne à la porte d'entrée, écoutant l'écho de ses pas et se souvenant de toutes les fois où il a emmené Tina ici, pour pas qu'elle entende leurs parents se disputer, pour pas qu'ils les entendent, tous les deux. Il jette un œil dans Birch Street, voit qu'elle est déserte, et traîne le chariot de Tina au bas des marches. Il remonte verrouiller la porte d'entrée et retourne à la maison, en prenant bien soin de refaire un signe de la main à M. Tai. C'est plus facile maintenant. Il renvoie même deux fois le frisbee à Billy Tai. Le chien le chipe la deuxième fois et ça les fait rire. Avec les carnets rangés au sous-sol du centre aéré abandonné, dissimulés au milieu de tous ces autres cartons légitimes, rire aussi devient facile. Pete se sent allégé de 25 kilos. Peut-être même 50.